Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. C'est tenu le dimanche 5 juin à Saint-Va-des-Longmonts, une fête médiévale. Événement organisé pour la quatrième fois par l'association Festivités Valmontoises autour de l'église romane du village. Débutons le reportage avec Pascale Bouteille. Elle est secrétaire de Festivités Valmontoises.
Bonjour. Alors cette fête médiévale, nous la faisons pour la quatrième fois. Et nous essayons d'organiser une fête essentiellement portée sur la fête de village. Tout est gratuit chez nous, y compris l'entrée, les jeux, les stands. Nous avons deux compagnies qui font notre animation. Nous avons la Guilde d'Émeraude qui s'occupe de spectacles, qui nous fait des combats, des danses, qui nous initie également à la danse, entraînant petits et grands dans leur farandole. Nous avons les Compagnons de la Chouette, qui sont une compagnie de laine, qui est venue nous rejoindre bénévolement. Alors eux font de la déambulation avec un bourreau qui fait des démonstrations. Et puis sur les stands, il y a de la calligraphie, il y a de la monnaie, de frappe de monnaie.
Alors sont présents également des stands avec des artisans locaux?
Oui. Alors quelques personnes, y compris de Saint-Va. Il y a une personne qui travaille le cuir de façon complètement naturelle, sans aucun colorant, qui fait tout à la main. Nous avons une dame qui nous présente ses confitures, faites maison également. Nous avons une dame qui fait de superbes broderies. Une autre personne qui fait des mandalas en ficelle. Nous avons un maraîcher qui est de Villeneuve-sur-Verberie qui nous a apporté de très beaux légumes et de très beaux fruits. Une personne qui nous propose des épices et des savons d'Alep qui sont des savons tout à fait naturels, faits à base d'huile d'olive, qui a la connaissance de la technique ancestrale.
Alors sont proposés également des jeux pour les enfants et les adultes, des jeux Picard principalement.
Exactement, des jeux en bois qui sont destinés à tout le monde et qui sont à disposition toute la journée.
Tout se passe autour de votre belle église romane, église qu'on peut visiter grâce à Dominique Verdru.
Un très ancien habitant de Saint-Va-de-Longmont, passionné d'architecture et qui nous fait visiter régulièrement l'église et qui pose des visites guidées et explicatives. Et il y aura un petit concert cet après-midi à 15h30 avec une musicienne qui va venir. Et là, ce sera un petit concert de musique celtique.
Madame Bouteille, merci à vous.
Merci. Je vous en prie, je vous remercie. Et puis bonne fête à tous. Profitez bien de cet après-midi, si possible, sans pluie.
Le prisonnier, la soif.
Poursuivons le reportage avec François Loridan. Il est le fondateur et le président de la Compagnie de la Chouette.
Bonjour. Alors, c'est une petite association médiévale familiale. Nous sommes quatre membres, 12-13e siècle à peu près. Quelques mots. Il y a le bourreau, il y a la calligraphe, il y a des fruits et légumes d'antan et des armes d'époque avec les tortures aussi. La vie de camp en général.
Mélina Loridan.
Bonjour, je fais calligraphie médiévale. C'est notre écriture actuelle, mais plus élaborée comme à l'époque. Et je présente aussi donc, les runes vikings, donc l'écriture des Scandinaves à l'époque médiévale.
Elles servent à quoi ces runes vikings?
Alors, c'est l'écriture chez eux, c'est comme chez nous, c'est leur moyen de communiquer. C'est juste que par rapport à chez nous, c'est un petit peu plus brut comme y graver. Alors que les latins, il fallait qu'ils fassent de ces fantaisistes pour taper à l'œil, comme on dit.
Alors, vous utilisez quoi comme matériel?
Alors, principalement les plumes d'oie, comme à l'époque, parce que vraiment, au tout début du Moyen-Âge, l'écriture, c'était vraiment secondaire par rapport à maintenant. Il faut attendre plus tard qu'on investisse dans des moyens un peu plus luxueux pour permettre d'avoir les premiers stylos plumes, les calames, et pour ainsi que les encres, donc fabrication à base de pigments, de sève de pin, de brunoise. Alors, moi, je présente aux gens l'écriture médiévale à l'époque, s'ils le souhaitent, à mot personnalisé, leur prénom dans les deux écritures, il n'y a pas de souci. Puis des fois, si les enfants ils le souhaitent, je leur fais un atelier pour comment manier la plume, voilà, comment écrire également.
Mélina, merci. Vous êtes basée dans l'Aisne, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui, un marché dans l'Aisne, à côté de Laon. On aime bien la vie médiévale, donc voilà, faire revivre le patrimoine, je dirais que c'est important aujourd'hui pour pas perdre ce qui était à l'époque. Et puis voilà.
Alors on va détailler un petit peu ce que vous proposez aujourd'hui. Alors vous disiez qu'il y avait un bourreau.
Oui, mon beau-père est bourreau de l'association, donc voilà, on présente aussi les tortures avec, et puis il se promène avec sa petite hache, et puis voilà, avec des tortures, on présente des tortures. Alors aujourd'hui, bon, en armes, on a de la masse d'armes à ailettes, on a du fléau d'armes, de la hache de combat, l'épée.
Ça faisait mal ces armes à l'époque. Hein.
Oui, ouais, principalement c'était pour casser les os, c'est bien, oui. Ouais, parce que ouais, c'était pour casser principalement les os, pour pas que le chevalier puisse continuer le combat derrière, quoi.
Quels fruits et légumes d'antan vous proposez ?
Y a un peu de tout. Elle propose des herbes pour cuisiner. Elle montre aussi ce qu'il y avait. Et puis, elle fait un petit jeu ludique entre ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Il faut trouver les intrus, quoi. Il y a des pommes, il y a des radis, il y a un peu de tout, quoi. Il y a une pomme de terre, l'intrus. Avec une tomate aussi, l'intrus. On a une page Facebook sur les compagnons de la chouette, sur Internet. Okay. On nous trouvera assez facilement, quoi.
Merci à vous.
Que la lame du bourreau allait s'abattre sur le gracieux cou de sa magnificence. Jean-Hugues, à la fidélité sans borne, vint héroïquement le sauver.
Hop !
Et s'engagea alors un combat homérique tel que rarement on en vit. Seuls quelques passes suffirent afin de littéralement acculer le seigneur et son mercenaire tant l'affrontement était intense.
Poursuivons le reportage avec Alexandre François. Il œuvre dans l'association La Guilde d'Émeraude. François, bonjour.
Bonjour.
Alexandre, bonjour.
Bonjour, enchanté. Alors, la Guilde d'Émeraude, c'est une association médiévale fantastique où on pratique diverses activités, notamment la danse, l'escrime, et on organise aussi quelques ateliers et scénettes. Donc, on peut retrouver la fabrication de cotes de mailles, la couture, le tissage, ou encore la création de bougies. On fait aussi de la cuisine, telle qu'on le faisait à l'époque, et des petites scénettes représentant aussi la vie qu'on pouvait mener à l'époque sous un trait humoristique. On est basé sur Compiègne, et on fait nos entraînements pareil à Compiègne, dans une petite salle à Marnier, Compiègne.
Alors, cette scénette, elle parlait de quoi exactement ?
Elle parle d'un seigneur qui maltraite un petit peu son peuple, et il se promène avec son plus fidèle chevalier, et ils rencontrent deux gueux. Et ces deux gueux organisent un petit piège. Ils présentent à ce noble un coffre qui est censé être rempli de trésors, qui ne l'est pas. La finalité de cette scénette, c'est que le garde du corps est fidèle à son seul et unique seigneur comme son seigneur lui ordonne, c'est-à-dire lui-même. Donc il reprend la couronne et il devient seigneur à son tour et emprisonne le noble.
D'accord.
Tacticien dans l'âme, Gontran, aussi malin que magnifique, décida d'adopter une stratégie complexe axée sur un repli derrière son égide Jean-Hugues, dont l'abnégation sans borne le poussait à se battre, corps et âme, pour la cause de son noble seigneur.
Vous parlez de cuisine également au sein de l'association ?
Exactement. Donc on a une cuisinière qui est Aude, qui nous prépare là en ce moment un petit repas à base de blé. Et j'ai pas la recette, mais je sais que ça va être excellent et basé sur l'époque.
Vous êtes combien au sein de la Guilde d'Émeraude ?
Aujourd'hui, on est une quinzaine et on se balade un petit peu sur les manifestations. Il y a 2 semaines, on était à Gisors, par exemple.
D'accord.
On reprend les activités en septembre, si on a l'opportunité, sûrement Saint-Leu-d'Esran ou alors Pont-Sainte-Maxence, à voir.
D'accord. Qu'est-ce qui vous fascine dans le Moyen-Âge ?
La passion, les chevaliers, toutes les valeurs qu'ils mettent à l'époque et qui n'existent plus forcément aujourd'hui. Notamment le respect envers autrui, ou alors l'entraide mutuelle qui aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup ou alors très rarement.
Exactement.
On a un Facebook, un Instagram aussi, et on a un site internet, donc laguildedemeraude.fr.
D'accord. Précisez aux auditeurs ce que signifie le terme « guilde ».
Guilde, c'est un rassemblement de personnes qui sont là pour une passion commune. Donc à l'époque, ça pouvait être des guildes d'alchimistes, des guildes de médecins, des différentes guildes. Et c'est des rassemblements de personnes, peut-être de contrées différentes, qui se réunissent pour organiser leur convention, tout simplement.
Alexandre, merci.
Au plaisir.
Poursuivons le reportage avec Jean-Luc Lenoir, il est musicien médiéval et collectionneur.
Bonjour. Je suis musicien depuis très longtemps. En fait, j'ai quasiment gagné ma vie avec la musique médiévale. Enfin, j'en ai fait longtemps. J'ai commencé, en fait, j'étais guitariste au départ. Et puis j'ai rencontré le luth. Vous voyez cet instrument, un peu de la forme d'une mandoline en plus gros, quoi. Et j'ai commencé à faire de la musique médiévale avec cet instrument-là. Et puis, que dans les groupes de musique médiévale, beaucoup de musiciens jouent de plusieurs instruments. Donc j'ai commencé à essayer de toucher à d'autres choses, par goût des sons aussi, parce que les sons sont particuliers, très différents de ce qu'on entend, des instruments qu'on connaît, des instruments classiques. Ils ont un charme qui m'a touché, et puis voilà, j'ai fait une petite collection, enfin, elle est devenue un peu grosse d'ailleurs.
Il y a à peu près combien d'instruments que vous exposez aujourd'hui ?
Là, il doit y en avoir une soixantaine, et encore peut-être plus.
Vous parliez du luth, mais à côté, on a par exemple un instrument que je ne connaissais pas qui s'appelle la cytole.
La cytole, c'est un ancêtre de la guitare, voilà. Le luth, d'une certaine façon aussi, mais... En fait, on distingue les luths des guitares par la forme bombée. À partir du moment où la forme est bombée derrière, on considère que c'est des luths. Quand les formes sont plus plates derrière, on considère que c'est plutôt des guitares.
Alors, il y a des instruments à cornes, mais aussi des instruments à vent.
Ouais, il y a la cornemuse, qui est un instrument très ancien, qu'on connaît surtout par l'Écosse. Enfin, la cornemuse écossaise est énorme. La cornemuse médiévale est beaucoup plus petite et beaucoup plus douce. Le principe, on met de l'air dans une poche et après on appuie avec son coude comme ça pour faire sortir l'air et l'envoyer dans les tuyaux qui font de la musique.
Alors, autre instrument, il vient du Pays de Galles, ça s'appelle le crwth, c'est ça ?
Le crwth, ouais, c'est écrit C-R-W-T-H. Vous voyez la lyre ? La lyre, c'est l'instrument d'assurance Tourix, là.
Ouais.
Voilà, en gros, c'est ça. Sauf que au milieu de la lyre, on a mis un manche, comme un manche de violon. Du coup, ça devient une lyre à archer. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui éveillent une curiosité parfois un peu étonnante. Si, il y a un instrument un peu étonnant, c'est une flûte. C'est une corne, assez grande d'ailleurs. Et contrairement à ce qu'on voit d'habitude, les cornes, en général, on les perce sur la pointe de la corne et on la joue un peu comme une trompette.
C'est ça.
Voilà. Là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est à l'endroit le plus large de la corne qu'on fait un bec comme sur une flûte. C'est un instrument très doux.
Cet instrument, il s'appelle le Genshorn. Il vient d'où ?
D'Allemagne. D'accord. C'est pour ça qu'il a un nom très allemand.
Jean-Luc Lenoir, merci pour cette présentation.
Je vous en prie.
C'était Yann. J'étais donc en ce dimanche 5 juin à Saint-Va-des-Longmonts pour assister à une fête médiévale, événement organisé pour la 4e fois par l'association Festivités Valmontoises. Merci de votre écoute. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.